bon, pour vous dire que ce qui vous attend, c'est, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que, en fait, vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous de leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous de leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'est Eric Gore, chaque semaine sur les collègues Garrigues à Montpellier, Canal Sud à Toulouse. Et bien évidemment, Radio Primitive sur Reims, où cette émission est réalisée. Les Grégor, une parole anarchiste communiste.
Ma môme, elle joue pas les starlettes, elle met pas des lunettes de soleil. Elle pose pas pour les magazines, elle travaille en usine à Créteil.
Fabienne Leray, juste après 68, va travailler en usine. Elle s'établit à Renault-Flins et y fait sa révolution. Elle en a tiré un livre en 2018, L'envers de Flins, qui a été récemment adapté en BD par la boîte à bulles et est devenue une féministe révolutionnaire à l'atelier. Nous avons été rencontrer Fabienne Leray chez elle, pas très loin de Flins.
Et je crois bien que la Sainte Vierge des églises n'a pas plus d'amour dans les yeux et ne sourit pas mieux, quoi qu'on dise. L'été, quand la ville s'en sommeille, chez nous, il y a
pas au moins 60% des gens habitaient quand même dans la région, entre Mantes, les Mureaux, même dans le 95. Alors là, on est devant la... Le parking, tu vois, où on voit les fameux moutons de la bande dessinée.
Dans ta BD, il y a à chaque fois tu parles aux moutons.
C'est une idée de Philippe, parce que dans mon livre, il y a un chapitre sur les moutons qui remplace les jardiniers. Voilà, je parle des moutons et de voilà. Et ça, c'est le CE, le bâtiment du CE qui est au bout là. Donc voilà, il est fermé là. Il n'y a plus rien. Et tu sais que le grand désastre de ma vie là, que, récente, c'est que l'année dernière, je crois, un peu plus d'un an, ils ont liquidé la bibliothèque et toute la médiathèque. Il n'y a plus aucun livre, plus aucun disque, plus aucun rien. Il n'y a plus rien.
Il n'y a plus de bibliothèque ni discothèque, non, vois, pour les là. Ouvriers,
non,
de ceux
y a,
qui restent.
Il n'y a plus qu'un bureau pour venir chercher des billets ou ses chèques vacances. Il n'y a plus d'activité, en fait. Il n'y a plus de voyage, il n'y a plus rien.
Ils n'ont plus beaucoup de personnel. Hein. On a été jusqu'à moi, quand je suis rentrée, il y avait plus de 50 personnes au CE, dont les gens qui s'occupaient des centres de vacances. Après, ils ont vendu les centres de vacances. Mais quand je suis partie, il y avait quand même encore bien 20-25 personnes. Là, il n'y a plus que 3 personnes à tout casser.
C'est vrai que ça, on voit ça que c'est immense.
Elle fait un kilomètre, plus d'un kilomètre de long, ce couloir-là. Donc là, tu as la mécanique, c'est en dernier. Et après, tu as les... C'est là, on est au bout du processus de production. Tu as la mécanique, on met les roues, le moteur, etc. Et après, ça part dans les parcs. Et c'est là qu'il y avait des joquettes. Donc. Et avant la mécanique, tu as la sellerie. C'était le bâtiment où j'étais. C'est le seul bâtiment où il y a 3 étages. Tu
ouais,
le vois, là-bas
ouais, okay.
Et la couture était au dernier étage, bien cachée. Les hommes appelaient la couture, le parc à moules. Ça m'avait super choquée au début. Puis j'étais jeune, j'étais naïve. Ça, c'est les locaux syndicaux qui étaient à l'intérieur de l'usine, au bout des couloirs, là, intérieur. Quand il y a eu plusieurs autres syndicats qui sont venus, notamment FO, etc., il n'y avait que la CGT et la CFDT qui avaient chacun un grand local, avec plusieurs salles. Et c'était bien d'être dans l'usine, on était autonome.
Bah oui.
Maintenant, les syndicats sont à l'extérieur. Je vois qu'il y a un truc de sud,
ouais,
mais en fait, ils ont dû réouvrir parce qu'en fait.
Sud Renault, ouais.
Ah ben je vais aller voir, mais c'est allumé, ben c'est bien, je vais aller les voir s'ils sont là les sud.
Ouais, alors tu me disais aussi que maintenant il n'y a plus que combien d'ouvriers ?
3 000, 3 000, 3 200.
D'accord.
De salariés, pas ouvriers, salariés. Parce que les ouvriers, il y en a beaucoup moins qu'avant. Il y a des employés encore, mais il n'y a plus vraiment de production, quoi. Ils font une partie de la zoé, mais ils font le recyclage. Et tu vois, là où il y a les moutons, il y avait c'était le parc de cars. Maintenant, il n'y a plus de cars. Ça, c'est l'entrée principale de Renault. Il y a plusieurs entrées. À l'époque, il y avait 6 ou 8 entrées, parce qu'il y en a de l'autre côté, tout au long, des entrées. Donc, quand on distribuait les tracts, il fallait du monde. Hein. C'est impressionnant quand même, c'est immense. On ne se rend pas compte, mais...
Combien de travailleurs, là, tu disais, au début?
En 68, c'était 10 000. Ils étaient arrivés à 10 000. Et puis après 68, quand ils sont passés en 2008, en 69, je crois, ils ont monté dans les années 70. Même quand on arrivait, il y avait 20, 22 000. Ça a monté jusqu'à 22 000. Il y a eu beaucoup de suppressions d'emplois à cause de l'automatisation, mais aussi la délocalisation de certains services, comme la couture.
La BD, tu connaissais quelque chose avant de te lancer dans cette aventure ?
Je connaissais, parce que j'en lis quelques-unes quand même. J'aime bien les romans graphiques, oui, engagés. Voilà. Oui, j'aime bien les BD, mais je ne connaissais pas comment ça se passait. En fait, c'est un copain maintenant, c'est un copain, voilà, qui était à Mantes-la-Jolie. Le premier jour où j'ai présenté le livre à la Nouvelle Réserve en 2018, en février, il est venu me voir tout de suite en me disant « C'est trop bien, votre livre, ça ferait une belle BD. » Moi, j'étais un peu estomaquée. Je vais réfléchir, pourquoi pas. Puis après, je lui ai dit oui, voilà. Et puis, on a travaillé, on a essayé de chercher une illustratrice, parce que je voulais absolument une illustratrice. On a trouvé Elena, qui par ailleurs a une partie de sa famille qui a travaillé chez Renault à Billancourt, donc c'était drôle de coïncidence, quoi. Et puis, elle est jeune, elle est beaucoup plus jeune que nous, elle a la trentaine. Et lui, il fait des BD, il est scénariste de BD, il fait des BD historiques. Et il a fait notamment toute une série chez Dargaud sur l'histoire de la banque, depuis le début qu'elle existe. Et ça a été arrêté au 6e volume, quand il a commencé à vouloir parler de la banque là, actuelle, à partir du 20e siècle. Et Dargaud a dit non, ça devient trop politique, quoi, en gros. Donc il cherche un éditeur pour faire la suite. Et puis il a fait Le banquier d'Hitler, il a fait, je ne sais pas, d'autres BD. Il s'intéresse beaucoup à l'histoire. Donc on est trois, et donc La boîte à bulles, qui est un éditeur qui commence un peu à être connu, qui fait beaucoup de romans graphiques, ils ont vraiment pris en charge le truc, et c'est sympa. Voilà. Et moi j'ai appris beaucoup de choses, parce que c'est très très technique, en fait. On s'est réunis, on se voyait toutes les semaines le mardi, on travaillait 2 ou 3 heures, c'est dense hein, quand même. Mais c'est comme si on faisait, au début ça m'a fait penser à un synopsis de film, mais en fait il faut tout décrire, il faut dire à l'illustratrice tout ce qu'elle va faire, tout ce qu'elle va dire, tout ce qu'elle va prendre comme image. Il fallait qu'on cherche des documents pour l'inspirer, on est assez contents quand même.
On est aujourd'hui à Flins avec Fabienne Loret. Et on va parler avec elle à la fois du livre qu'elle a écrit il y a quelques années sur l'envers de, bientôt 5 ans, l'envers de Renaud Flins. Et puis là, ça a été adapté en bande dessinée. Donc ça permet aux auditeurs qui ont envie d'avoir un peu plus d'informations sur qu'est-ce que c'était qu'une établie, qu'étaient les conditions de travail à l'usine Renaud Flins vue par une femme, puisqu'il y a un atelier de femmes dans cette usine, à l'époque, en tous les cas, puisque maintenant, l'usine a fermé. Elle n'est pas fermée tout à fait. Et bien voilà, on va en discuter un petit peu. Et bien ça leur permet ou d'avoir une version livre, ou sinon, voilà, une version BD qui est sortie à la boîte à bulles. Salut Fabienne.
Bonjour.
68 a été pour toi un bouleversement qui t'a fait faire ce choix d'entrer à l'usine en tant qu'établie. Est-ce que tu peux nous parler de ces années 68 ?
Moi, en 68, comme je suis née en juin, en mai 68, je n'avais pas encore 18 ans. J'avais 17 ans, presque 3/4. Et donc, j'étais lycéenne, comme j'avais redoublé ma seconde, j'étais encore en première. Arrive 68 et mon lycée se met en grève, je suis dans les premières, on occupe. C'était le lycée Hélène Boucher à Paris, un lycée assez chicot, c'est tout ça. Mes parents, qui n'étaient pas pourtant très friqués, ils avaient voulu qu'on aille dans un bon lycée. Au départ, on habitait à Bray-sur-Marne en banlieue, puis après, mes parents ont divorcé, on a habité à Paris, à côté de République. Moi, j'aimais bien tout ça, j'aimais bien Paris. Et puis au bout de 3 jours, je crois, la direction du lycée a tout fermé. Toutes mes copines, elles sont envolées, je ne les ai plus revues. Et comme j'avais un copain, lui, il était au lycée Henri IV. Donc j'étais là-bas, Henri IV, où c'était un peu la folie. Voilà, les débats, c'était à côté des manifs au quartier latin. Donc
Tous les jours, il y avait des manifs. C'était un moment inoubliable, quoi, pour plein de gens. Il n'y a pas que moi. Pour les gens qui ont vécu 68, surtout dans les grandes villes, notamment à Paris, c'est quelque chose d'extraordinaire. Disons, tout ce qui se passait, la liberté qu'il y avait. Il n'y avait plus rien qui marchait. Enfin, il n'y avait plus de train, il n'y avait plus de voiture. Enfin, il n'y avait plus de transport. Et ça ne faisait pas des drames comme aujourd'hui, parce que les gens... Ils habitaient près de leur travail, il n'y avait pas cette distance, voilà. Voilà, donc c'était moins problématique. Bon, il y en avait qui râlaient, mais c'était moins problématique. Et puis, il y avait une ambiance générale, donc j'ai rencontré les organisations révolutionnaires qui étaient quand même dans les manifs. J'allais à la Sorbonne où il y avait des meetings tous les jours, notamment des meetings avec les... Moi, je ne savais pas que c'était des trotskistes, mais je m'en foutais avec... Il y avait surtout Daniel Ben Saïd, Henri Weber, et puis Samuel Joshua, etc. Krivine un peu, mais pas beaucoup, je crois qu'il n'était pas là. J'étais emballée avec nos copains, on s'est dit, on allait voir tout le temps les meetings, et d'autres aussi, hein, parce qu'on était tout le temps sur la brèche. Et puis, il y a eu la dissolution des organisations révolutionnaires le 12 juin, je crois. Oui, elles sont sur la suite. C'était De Gaulle, hein. Il avait dissous les organisations révolutionnaires. Et donc, on s'est dit, on ne va pas laisser faire ça. Et on est allé à une réunion, à un comité, le comité du 5e, 6e arrondissement. À l'époque, ça s'appelait les jeunesses révolutionnaires. Jeunesse communiste révolutionnaire, parce qu'une partie de la JCR avait été issue du Parti communiste. C'était les opposants au Parti communiste avant. Voilà. Et puis, on a été emballés. Après 68, le travail a repris, à la rentrée, tout ça. Puis, au lycée, ils n'ont pas voulu de moi. Très vite, ils m'ont viré. Ils ont dit, on a appris que vous viviez avec un garçon, ce n'est pas très bien.
C'était pas par rapport à ton comportement, mais plutôt...
Les deux, ils ont prétexté ça, que ce n'était pas bien, que j'étais quelqu'un de... Pas moral, et que de toute façon, voilà, et ben, j'irais réviser la préparation de mon baccalauréat, la terminale, chez moi. Et mais ils m'ont exclu, en fait. Okay. Bon, moi, ça m'arrangeait, en fait. Voilà. Et puis, ça m'a permis de militer. Donc, j'ai eu mon bac. Le bac de 68 avait été bien donné, quand même. Hein. Mais celui de 69, c'était plutôt l'inverse. Ils se sont bien vengés. Il était dur. Hein. Après, eh bien, j'ai voulu faire de l'histoire. Donc, j'étais à la fac de Sancier. Puis après, je voulais faire de la philo. J'étais à la fac de Jussieu. Mais comme je faisais que militer, ben, j'ai dû avoir, en tout, peut-être sur les 2 ans, j'ai dû avoir... 4-5 unités de valeur, je ne sais plus, donc ce n'était pas possible. Voilà, je ne pouvais rien faire avec. Et c'est là qu'il y a eu des débats. La Ligue communiste s'est créée, elle est devenue une organisation, pas que de jeunesse, mais pour tout le monde. Et il y avait des débats avec une partie de la LCR ou la Ligue communiste qui disait qu'il fallait... Il y avait des grosses divergences sur plein de sujets, et notamment sur l'URSS, sur la nature de l'URSS. La Ligue communiste disait toujours que c'était un État ouvrier dégénéré, et un autre courant qui m'intéressait disait que c'était un État capitaliste, enfin capitaliste d'État, voilà, capitaliste d'État, et qu'il fallait les combattre et qu'il fallait quand même regarder un peu en face ce qui se passait. Donc ça m'intéressait. Puis sur d'autres sujets, notamment sur la place de la classe ouvrière, ce courant-là disait qu'il fallait vraiment s'installer dans la classe ouvrière, qu'on pouvait pas... Le PC était quand même assez fort encore après 68 dans les entreprises, et que vu ce qui s'était passé, puisque 68 quand même, une bonne partie de la direction de CGT et du Parti communiste ont fait reprendre le travail aux salariés, oui. Hein, en juin, pour aller aux élections législatives qui ont été gagnées par la droite, logiquement. Les gens avaient peur, etc. Donc on disait, il faut qu'on construise un parti révolutionnaire dans les entreprises. Voilà. Et donc, il y a eu une scission, et je suis rentrée dans cette organisation qui s'appelait l'Organisation communiste, et après, l'Organisation communiste des travailleurs.
À cette époque-là, il y avait, comme tu le dis, cette idée que c'était la classe ouvrière d'usine qui était l'avant-garde de la révolution. Et que pour passer à un autre système, c'est-à-dire mettre à bas le capitalisme et faire la révolution, il fallait s'installer auprès de cette classe ouvrière, devenir cette classe ouvrière, pour pouvoir y mener les luttes qui nous amèneraient à une transformation radicale du système capitaliste. Donc toi, tu étais dans cette logique-là. Ouais. Un certain nombre d'hommes et de femmes ont suivi cette voie, oui. ont été longtemps dans les usines ou moins longtemps. Et toi, la particularité de ton parcours, c'est que tu y es restée toute ta vie.
Je ne suis pas restée toute ma vie dans l'usine parce que bon, voilà, je suis restée ouvrière, disons, 11 ans et demi. Et puis après, j'ai été embauchée au comité d'établissement. Mais c'était toujours dans le cadre dans l'usine. J'étais plus ouvrière.
La vie quotidienne s'organise, les maris lavent les chemises, c'est eux qui font les commissions, nous qui menons la discussion. À mesure que la lutte s'avive, je comprends mieux ceux qui arrivent, que plus dure sera la bagarre, plus grande sera notre victoire. J'apprends la solidarité, pour nous les chanteurs viennent chanter, des inconnus nous se prive pour mieux nous aider à survivre. La lutte s'amplifie encore, dans la rue nous allons alors, et les gens bien tout étonnés plissent le nez, mais qu'est-ce que c'est? C'est la grève, pour qu'on la gagne ou qu'on en crève, et je dirais même entre nous, pour mieux manger des pommes de terre et rester debout et tenir le coup, que manger du bifteck, mais se mettre à genoux, messieurs les patrons.
Je renie pas du tout ce que j'ai fait, je trouve ça, voilà, je trouvais ça juste. Je trouvais ça juste parce qu'on se disait, en fait, c'était tellement un mouvement extraordinaire. 10 millions de grévistes, entre 8 et 10 millions de grévistes. Et c'est effectivement la classe ouvrière. Toutes les, il y avait les petites boîtes, il y avait les magasins, il y avait les grands magasins. Il y avait, c'était quand même une révolte sociale ouvrière, 68.
C'était, et étudiante.
Et étudiante, voilà. Et il y a une espèce de conjonction qui s'est faite.
Qui s'est pas faite.
Ça dépend, ça dépend des endroits. Ça dépend des endroits. Il y a des endroits où ça s'est fait. Des endroits ça s'est pas fait. Voilà, ça, et lycéennes aussi, parce qu'il y avait les lycées. Les lycées en grève, c'est quand même quelque chose. C'était, voilà, c'était un mouvement social extraordinaire. Et l'idée d'aller en usine, c'est de dire, on n'a pas le temps, quoi. On va pas attendre de recruter des gens en allant à l'extérieur. Il faut être dedans. Il faut être dedans pour, voilà, construire, voilà, et faire la concurrence au Parti communiste. En gros, c'était ça. Il y avait déjà des, effectivement, des courants maoïstes qui étaient établis un petit peu avant 68, un petit peu, qui allaient dans l'usine. Mais eux, ils faisaient des, comment dire, on appelle ça, ils restaient pas longtemps. Ils faisaient des petites boîtes. Et nous, l'objectif, c'était s'installer, mais dans une grande boîte. Renault. Alors, on s'était dit, Billancourt, c'est un peu verrouillé parce que la CGT est très très forte. Voilà, c'est compliqué. On était allé à Renault-Flin. Il y avait eu des événements à Renault-Flin en 68 où la police a voulu évacuer les grévistes. Il y a eu des bagarres avec la police et il y avait des étudiants qui étaient venus. Et il y a un jeune étudiant maoïste qui s'appelle Gilles Tautin qui a été poursuivi par les CRS jusqu'à Melun, qui est à côté, hein, qui n'est pas très très loin, le long de la Seine, parce que l'usine, elle est le long de la Seine. Pour échapper au CRS, il a sauté dans la Seine. Et il s'est noyé, mais les CRS l'ont laissé se noyer, en fait. De fait, c'est ce qui s'est passé. Donc ça fait quand même un tollé. C'était vraiment très, très grave. Je me souviens de son enterrement, enfin de Gilles Tautin. C'était quelque chose dont on se souviendra toute notre vie. Il y avait une immense, de plusieurs centaines de milliers de personnes à Paris. C'était incroyable. La grandeur des manifs dans ces années-là, aujourd'hui, on se dit, on est petit, quoi. Mais bon, moi, ça m'avait beaucoup marqué. On s'est dit, ben voilà. Mais on ne l'a pas dit tout de suite en 68. On s'est dit plusieurs années après, quand on était à l'OCT, que voilà, et ben, on va essayer. Et il y a eu un courant dans l'Organisation communiste des travailleurs pour dire, il faut. Et il y a eu pas mal d'établissements, ouais. Dans plein d'usines.
Je voulais revenir sur cette idée qui, visiblement quand même et concrètement, aujourd'hui, c'est tellement étiolé qu'on se demande si elle existe encore. Cette idée que dans les années 60 et 70, il était possible, comme tu viens de le dire, de transformer les choses, de faire la révolution. C'était quelque chose d'évident et d'immédiat. Et j'aimerais que tu nous parles de ça parce qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'en fait, on n'y croit plus. On est dans la gestion, là.
C'est difficile. Il n'y a pas eu de très, très grande victoire depuis. Il y a eu le CPE, il y a eu un grand mouvement en 95. Des grandes grèves, quand même, l'hiver 95. Il y a eu d'autres mouvements, mais c'est vrai qu'on pense que c'était peut-être un peu utopique, mais on se disait il faut aller là où ça s'est passé, quoi. Et quand on est venu s'établir dans la région, on s'est établi dans plusieurs usines. Dans la région, il y avait beaucoup d'usines, hein. Il n'y avait pas que Renault, il y avait la Cellophane, moi j'ai travaillé un peu au Profil, etc. Et on ne voulait pas papillonner. Et aussi, on se disait il faut s'implanter aussi partout, dans toute la vie des gens. C'est-à-dire que quand on est venu, on était au moins une bonne vingtaine, il y avait des profs, des pions, il y avait des gens qui étaient employés, c'était s'établir dans une région, c'était pas seulement faire que de l'usine, tu vois. Et c'était, je veux dire, ça a du sens. Et c'est vrai que quand il y a une grande usine comme ça, la région est impactée par une grande usine comme ça. Et inversement, donc, il y a eu aussi un établissement de copains qui sont même encore là. On a même créé une librairie à Mantes-la-Jolie qui
existe toujours.
Il y a sa petite fille qui existe toujours. La réserve, c'était une des idées, justement. Hier, on fait une librairie indépendante, mais qui n'est pas forcément une librairie spécialement politique. Mais voilà. Et maintenant, ça s'appelle c'est une autre. Elle est à Limay, elle s'appelle La Nouvelle Réserve, c'est un peu un suivi de ça. Et les copains qu'on crée, Stéphane et Mike, ils sont toujours dans la région. Mmh. Voilà, Mike, elle était piolle, lui, il était correcteur chez Maspero, mais il travaillait ici.
Ça permettait ces organisations politiques et d'implantation sur une ville, ça permettait aussi des rapports entre les différentes composantes du prolétariat, de la classe ouvrière et populaire. J'ai l'impression aussi que ça permet qu'une ouvrière rencontre un prof, qui rencontre un éditeur, qui rencontre, etc. Il y avait beaucoup plus de brassage, oui, en fait, à l'époque.
Puis nous, on se disait, on s'établit en usine, mais on ne va pas aller s'acheter ou vivre, on n'avait pas les moyens, vivre dans une petite maison. Au départ, on a vécu dans une maison, elle n'avait même pas d'électricité, on n'avait pas de logement au départ. Mais on s'est dit, on va habiter en HLM, là où il y a les gens qui travaillent. Oui, voilà. Donc on était à Aubergenville au départ, et après on a été au Mureau. Pour rentrer en Offlin, on était quatre. Au début, on était deux. Mon compagnon et moi, Nicolas Dubos, c'était moi qui a écrit un livre sur Flin d'ailleurs, qui s'appelle Flin sans fin, au début des années 80, quand on est parti de l'usine. Et après, il y a eu deux jeunes, Jacques Verlac, qui lui est resté toute sa vie ouvrier établi. Mais il n'est plus établi. Au bout de quelques mois, quelques années, on est ouvrier. Voilà. Voilà, ça ne veut rien dire de dire c'est pas un métier établi.
Non, c'est une démarche quand
c'est
même.
Une démarche. C'est une démarche, mais il y a plein de gens qui l'ont fait depuis des. Ça existe avant. Voilà, Simone Veil ou plein de. Voilà, il y a plein de gens qui ont fait ça. Et il y avait Jacques et il y avait Jean-Pierre, voilà, qui était contrôleur comme Nicolas. Mais lui, il était en tôlerie et Nicolas était en sellerie. Et moi, j'étais embauchée à la couture des sièges. Voilà, à couture des housses de sièges. Quand je parlais avec mes copines, elles habitaient pas loin. Voilà, et la vie quotidienne. Avec les femmes, elles parlent beaucoup de leur quotidien. Les hommes, j'ai l'impression, beaucoup moins. Ou alors, ils parlent bricolage ou bagnole, voilà. Et les femmes, elles parlent beaucoup de leur vie quotidienne, voilà, des enfants, de ce qu'elles ont à faire, des questions d'avortement, justement. C'est les premiers combats que j'ai eu à mener, c'est la question d'avortement. Et il n'y avait pas encore la loi, donc il fallait, voilà.
Tu n'as pas de nom, non, tu n'as pas d'existence, tu n'es que ce qu'on en pense, non, non, tu n'as pas de nom. Oh non, tu n'es pas un être, tu le deviendrais peut-être si je te donnais asile, si c'était moins difficile, s'il me suffisait d'attendre, de voir mon ventre se tendre. Si ce n'était pas un piège ou quel douteux sortilège, non, non, tu n'as pas de nom, non, tu n'as pas d'existence, tu n'es que ce qu'on en pense, non, non, tu n'as pas de nom. Savent-ils que ça transforme l'esprit autant que la forme, qu'on te porte dans la tête, que jamais ça ne s'arrête? Tu ne seras pas mon centre, que savent-il de mon ventre? Pense-t-il qu'on en dispose quand je suis dans d'autres choses? Non, non, tu n'as pas de nom, non, tu n'as pas d'existence, tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas. Déjà, tu me mobilises, je sens que je m'amenuise, et d'instinct je te résiste, depuis si longtemps j'existe, depuis t'aime, mais je te veux sans problème. Aujourd'hui je te refuse, qui sont-ils ceux qui m'accusent? Non, non, tu n'as pas de nom, non, tu n'as pas d'existence, tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom, à supposer que tu vives, tu n'es rien sans ta captive, mais as-tu plus d'importance, plus de poids qu'une semence? Oh, ce n'est pas une fête, c'est plutôt une défaite, mais c'est la mienne et j'estime qu'il y a bien deux victimes. Non, non, tu n'as pas de nom, non, tu n'as pas d'existence, tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom, ils en ont bien de la chance. Ceux qui croient que ça se pense, ça se hurle, ça se souffre, c'est la mort, c'est le gouffre, c'est la solitude blanche, c'est la chute, l'avalanche, c'est le désert qui s'égrène, larme à larme, peine à peine. Non, non, tu n'as pas de nom, non, tu n'as pas d'existence, tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom. Quiconque se mettra entre mon existence et mon ventre n'aura que mépris ou haine, me mettra au rang des chiennes. C'est une bataille lasse qui me laissera des traces, mais de traces je suis faite, et de coups et de défaites. Non, non, tu n'as pas de nom, non, tu n'as pas d'existence, tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom.
Fabienne, tu as décidé très jeune d'aller travailler à l'usine pour faire la révolution. Et j'ai presque envie de tirer les oreilles à ta préfaceuse qui te définit comme quelqu'un qui se bat pour... qui s'engage pour les droits, la justice et la dignité. C'est une manière un peu timorée de, ouais, de parler de la révolution quand même.
Mais ceci dit, ce sont des notions qui ne me dérangent pas, oui,
ouais,
c'est
vrai. Qui sont tellement vagues qu'elles peuvent être appropriées par un peu n'importe qui. Mais
oui,
bon,
c'est vrai, c'est un peu généraliste, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, la révolution s'est éloignée assez vite quand même. Hein, quand on était établi, on s'est bien rendu compte et on est devenu très vite... syndicaliste, certes révolutionnaire syndicaliste, très vite il y a eu comme un retour de bâton au niveau politique, économique, etc. Il y a eu un espoir que nous on n'avait pas en 80 avec l'arrivée de Mitterrand, mais nous, je ne suis pas allé à la Bastille, hein, donc on était révolutionnaire, mais bon, on se disait, ouais, peut-être ça va changer les choses, puis en fait non, ça s'est aggravé encore pire, donc ça a duré quand même très très peu, disons. Ce temps-là de se dire oui, la révolution c'est pour bientôt parce que nous on est là, mais on avait du mal à convaincre les gens. Bon, on était dans les grèves évidemment, on était animateurs dans les grèves, on était au syndicat, mais pour faire passer les idées révolutionnaires, on avait un tract hebdomadaire qui s'appelait La clé à molette, voilà, et il avait beaucoup de succès, mais bon, les tracts, je veux dire, t'as des gens qui continuent à faire des tracts, je vois Lutte ouvrière, c'est la seule organisation entre guillemets révolutionnaire qui est dans les entreprises, ils font des tracts toutes les semaines. Bon, ils ont un profil particulier, ces tracts. Il y a l'éditorial du journal national, et puis il y a des petites infos, des petites chroniques, plus locales, mais il n'y a pas vraiment d'analyse, rarement d'analyse sur ce qui se passe dans l'entreprise elle-même, ni de perspective, c'est tout. Donc il n'y a plus grand-chose, en fait.
Là, je reviendrai bien sur les années 70, quand tu parles de cette désillusion, parce que là, on l'a replacée dans un contexte français, mais cette idée de révolution, elle était internationale.
Oui.
Partout dans le monde, il y avait des hommes et des femmes qui y croyaient et qui se battaient pour ça, et qui ont donné leur vie pour ça aussi. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de cette désillusion, c'est-à-dire cet engagement qui te pousse à aller à l'usine début 70, et puis petit à petit, comment tu as senti, vu que les choses... peut-être s'éloignait, quelle forme a pris ton combat?
C'est-à-dire que dans l'organisation où on était, il y avait des gros débats. Moi, j'avais du mal à suivre des débats idéologiques et franchement, ça ne me branchait pas trop. Et finalement,
fin des années, ça devait être en 78, 79, je crois, juste avant 80, l'OCT s'est dissoute. Une partie est retournée à la Ligue communiste révolutionnaire. Et puis moi, j'ai pas été, voilà. Et puis j'ai continué mon travail de syndicaliste révolutionnaire. J'avais toujours des idées révolutionnaires, mais voilà, j'étais féministe, j'étais antiraciste, parce que dans cette usine où il y avait beaucoup d'immigrés, il y avait la question du racisme. C'est-à-dire qu'on a été pris dans le flot du quotidien, de tout ce qu'il y a à faire quand on est militant, qu'on soit syndicaliste ou pas, mais bon, plus qu'on est syndicaliste, parce qu'on est délégué, on a des heures, on a des moyens, plus sur le quotidien. Voilà, on était pris par le quotidien. Moi, avec les cadences à la couture, les filles qui piquaient des crises parce qu'elles n'en pouvaient plus, ou la question de l'avortement, parce qu'il y avait des filles qui demandaient à avoir des avortements avant qu'il y ait la loi qui soit appliquée.
Tu t'es beaucoup investie, forcément, puisque tu étais dans un atelier de femmes de couture de siège automobile, par rapport aux questions qui étaient posées relatives particulièrement aux femmes, et donc cette question de l'avortement. Et comment vous le gériez à l'époque, puisque c'était interdit? Comment vous le gériez collectivement?
Il y avait des comités, il y avait le MLAC, qui avait été le mouvement pour la liberté de l'avortement et la contraception. Il y avait un collectif qui était qu'on avait créé sur l'usine, avec la CFDT, qui était à l'époque, qui était une CFDT oppositionnelle à gauche. Mais à Flins, elle est restée longtemps oppositionnelle, dans les 15-20% d'oppositionnelle, plus aujourd'hui. Hein, ils sont repassés de l'autre côté, jusqu'aux années 2010, disons. Ils sont restés longtemps, ouais. Ils sont restés longtemps oppositionnels. Et donc, on a créé un MLAC, et puis il y en avait à Mantes et au Mureau, il y avait des groupes femmes on participait, on avait initié ça. Et donc, c'est vrai que c'était un vecteur important de combat. Il y avait des médecins, bah oui, c'est comme ça que ça passait ça se passait au MLAC. Il y avait des médecins qui faisaient des avortements avec la méthode Karman d'aspiration, là, dans leur cabinet. Gratuitement.
Et c'était interdit, on est d'accord.
Oui,
hein. Donc ils risquaient gros, quand même.
Oui, ils risquaient gros. Ils sont à saluer, ces médecins qui ont fait ça. Ouais. Les médecins hommes et femmes qui faisaient ça. Il y en avait à Mantes. Oui. Et je crois qu'il y en avait au Mureau. Il y avait le planning familial. On travaillait aussi avec le planning familial qui était très aussi branché sur la question. Donc ça a été important. Pour moi, ça a été très important. Ces luttes-là, mais c'était aussi les luttes des quotidiens sur le machisme, l'atelier où j'étais. Alors, faut savoir qu'à Renault-Flins, dans les usines automobiles, il n'y a que 10% de femmes en partie. Maintenant, il y a peut-être 12% peut-être sur d'autres usines. À Poissy, c'était, je me souviens plus jamais, ils changent tout le temps de nom, Peugeot, Stellantis, oui. Ils changent tout le temps de nom. Renault, c'est toujours Renault, donc au moins, je ne trompe pas. Mais oui, dans les usines automobiles, il n'y a pas beaucoup de femmes, elles sont dans des secteurs particuliers, elles sont pas toutes à la couture. Hein. Quand mon atelier faisait quand même presque 560 femmes, c'était énorme. Hein. Bon, il y avait des équipes, équipe de 8 et des filles en normal, mais il y a aussi des filles qui étaient contrôleuses, il y avait des filles qui étaient à la peinture. Quand il y avait encore de la peinture manuelle, elles étaient maroufleuses, c'est-à-dire qu'elles mettaient des papiers sur les voitures, des caches et tout ça. Il y avait aussi des pontonnières en tôlerie, il y avait des jockeys à la fin de... Quand la voiture est terminée, elles prennent les voitures, elles les mettent dans le parc. Ça s'appelle des jockeys. Voilà. Okay. Elles étaient une majorité de femmes. Voilà, et puis il y avait des employés quand même. Mais à l'époque, il y avait un peu plus d'ouvrières que d'employés. Maintenant, c'est l'inverse. Depuis plusieurs années, c'est l'inverse. Il y a plus d'employés que d'ouvrières. Puisqu'il y a eu des disparitions d'ateliers. Notamment, la couture a disparu dans les années 95, comme ça.
D'accord.
Elle a disparu. Parce que ça a été externalisé. Et puis maintenant, les sièges ne sont quasiment plus cousus, ils sont moulés. Mon défi, ça avait été aussi, quand j'étais à la couture, cet atelier qui s'est mis en grève en 60, qui a participé en partie à la grève 68, mais on est rentré en 72. Mon défi, c'est qu'elle se mette en grève, qu'on fasse une grève pour les conditions de travail. Et notamment sur la question des temps d'opération, qui étaient toujours réduits. Le temps d'opération, et qui faisait qu'on avait une charge de travail de plus en plus grande pour les conditions de travail, bon, pour le P1 aussi, pour avoir un salaire un peu mieux, mais c'était surtout sur les conditions de travail. C'était très important pour les femmes, les conditions de travail, plus que le salaire. Le salaire, c'était une forme de reconnaissance, d'état d'égalité, mais si on a un bon salaire, mais qu'on a un temps de travail pourri, quoi, des opérations, voilà, des conditions de travail déplorables.
Et qu'on rentre chez nous complètement
crevé. Mal au dos, mal aux doigts. Enfin, vraiment, c'était... Bon, pour moi, ça a été très important, cet atelier de ces 11 ans à la couture. Ça a été très très bénéfique. Ouais, j'ai trouvé que c'était bien. Ouais.
Ben, raconte peut-être un des mouvements que vous, que tu as mis en place.
Ben, c'était la grève, c'était en 80 en fait, la grève, l'année 80 pour moi elle était une belle année parce qu'il s'est passé plein de choses. Mais bon, au moins j'ai réussi cette grève avec la collègue de la CGT, il y avait une déléguée CGT, il n'y avait pas de déléguée, moi j'étais à la CFDT, il n'y avait pas de déléguée depuis des années à la couture, il y avait une dame, voilà, qui s'appelait Mémène, une bonne cinquantaine, voilà, c'était un peu la mama, quoi, qui défendait les filles, elle était très très empathique, quoi, mais elle était un peu sectaire des fois. Bon, c'était pas très grave. Elle était à la couture, elle était à la couture, mais elle était à la coupe. Elle n'était pas sur les machines à coudre. Donc, ils n'avaient pas de délégué à l'époque. Ils en ont eu après. Je pense qu'elle avait besoin de quelqu'un qui soit... Et puis moi, j'étais assez ouverte. J'étais plutôt pour l'unité syndicale quand même. Dans notre organisation, on était pour l'unité syndicale. Parce qu'on avait des copains qui étaient à la CGT et d'autres qui étaient à la CFDT. On s'est dit, au bout d'un moment, ça suffisait. Quoi. On faisait des cadences pas possibles. Moi, je sortais des tracts, mais toutes les semaines, avec les revendications et tout ça, sur les temps d'opération, c'était la bataille tout le temps. Chaque fois qu'il y avait un nouveau modèle de voiture, ils réduisaient les temps d'opération sur la couture, sur les housses de siège. Tout le temps, tout le temps. Mais sur les chaînes aussi. Hein. Chaque fois qu'il y avait un nouveau modèle, c'était prétexte à allonger les cadences et à ralentir, à diminuer les temps d'opération. C'était leur objectif tout le temps, systématique. C'est la rentabilité. Voilà. Et au bout d'un moment, t'en peux plus, quoi. Donc, on avait préparé une grève, on avait fait des réunions. On avait quand même eu des salles de repos. Il y avait des salles de repos, je crois. Et on avait fait des réunions. Et les filles, elles étaient venues, elles en avaient ras-le-bol, vraiment. On avait fait vraiment beaucoup d'explications. On est allé voir, on est allé voir le chef. Et puis du coup, on avait déclenché une grève et elles sont sorties, c'était incroyable. Parce que la première fois que j'ai fait grève, moi, en 1973, c'était une grève qui était plutôt dirigée par les salariés immigrés sur les chaînes, parce qu'il y avait 80% d'immigrés sur les chaînes. Il y avait quelques femmes. Et c'était toujours pareil, sur les cadences et sur le salaire, sur être reconnu, ne plus être OS à vie, c'était ça l'idée, d'être reconnu et avoir une qualification de P1, voilà. Et ils étaient montés à la couture et mes copines m'avaient dit, ben c'était en 73, c'était juste un an après que je sois embauchée. Mes copines, parce que je m'étais fait des copines assez vite, avaient dit oui, il y avait au moins 5 ou 6 qui devaient sortir. Et puis quand ils sont arrivés devant les machines, elles ont baissé les yeux, tout ça. Je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire? J'étais vraiment, je ne vais pas y aller toute seule et tout. Mais je dis non, il faut que j'y aille, je ne peux pas me dégonfler quoi. Je suis sortie dans les allées toute seule et j'étais applaudie par les grévistes, évidemment. Mais les filles, waouh!
Elles avaient peur,
voilà. Il y avait les chefs partout.
Parce que là, peut-être précision pour bien situer, au moment où il y avait des grèves, les grévistes sortaient de leurs ateliers, ils allaient manifester dans l'usine, il y avait une manifestation à l'intérieur de l'usine et ils passaient devant les autres ateliers pour demander aux autres de sortir et de les rejoindre dans la grève. C'est pour bien situer l'image.
Et là, c'était les gars de la sellerie qui étaient venus. Mais il y avait des gars de la peinture et puis aussi des presses, souvent. C'est-à-dire dans l'usine, ceux qui démarraient les grèves, c'était beaucoup souvent la sellerie. La sellerie, c'est tout l'équipement intérieur de la voiture avant la mécanique où on met le moteur, les roues et tout ça. Okay. Voilà. Les bâtiments sont faits en fonction de toutes les opérations différentes qu'on fait sur une voiture. Alors, l'atelier principal où il y a beaucoup de grèves, c'est des ateliers durs, c'est les presses, là où on presse les tôles pour faire des ports, voilà tout ça. Enfin, tout ce qui est moulé, tout ce qui est pressé. Donc, c'était un travail très dur parce que c'est énorme, une presse, c'est vraiment physique. Il y a beaucoup de bruit. Et les gens, ils sont sourds hein, quand ils travaillent aux presses. Ils deviennent sourds, souvent. Et même avec des protections, ils deviennent sourds. C'était très dur, les odeurs, enfin tout ça, c'était quand même assez impressionnant. Et puis après, il y avait la tôlerie où c'était l'assemblage pour faire la carcasse de la voiture tout entière. Voilà. Et c'était des ateliers très durs. Je pense que la résistance, elle était un peu partout quand même dans l'usine.
Alors, on était donc en 73, tu pars en grève toute seule finalement.
Oui.
Donc ça, c'était ton premier geste d'insurrection solitaire, malheureusement.
Ouais.
Et après, on en était à ce mouvement début 80.
Oui. quand je suis sortie en grève, nous, on avait demandé à la CFDT, ils n'avaient pas voulu, parce qu'ils ne voulaient pas... Même s'ils étaient dans l'opposition, ils disaient « Ah non, les révolutionnaires, on ne veut pas que vous utilisiez le syndicat pour votre organisation et tout. » Et puis, quand j'ai fait grève, ils se sont dit « Mais on n'a pas de... » Il y avait les élections qui suivaient la fin de la grève. « On n'a pas de délégué en couture, c'est comme un atelier important. » Et ils nous ont demandé. Ils m'ont demandé. J'ai dit « Oui, mais moi, je n'y arrivais pas tout seul. Il faut que Nicolas, il vienne aussi. » Qui était, lui, était en contrôleur en sellerie. Finalement, on a négocié, on a été pris. Et après, la CGT, ils sont venus me voir. C'était trop tard, j'avais dit oui à la CFDT. Mmh. Mais je ne regrette pas, parce que je trouvais que c'était une bonne occasion, justement, de montrer qu'on pouvait faire l'unité syndicale. Moi, ça me plaît. Ça...
Sur des bases concrètes.
Concrètes,
locales.
Parce
que s'il y a plusieurs syndicats, ouais. C'est qu'il y a différentes tendances.
Il y a peut-être des divergences de pratiques. Oui, il y a des divergences de pratiques. Mais sur le fond, non, il n'y avait pas de divergence. À l'époque. Mais bon, on avait des divergences avec la CGT. Alors oui, je vais raconter une anecdote quand même importante. C'est en 72, quand je suis rentrée, c'était le mois de la fête des mères au mois de mai. Je suis rentrée le 3 mai. C'est le mois de la fête des mères. Et les filles, les ouvrières, elles allaient au CE. Parce que le CE, le comité d'établissement, qui était géré par la CGT, qui était hégémonique à l'époque, faisait une réception pour la fête des mères et un cadeau. Mmh. Et quand je les vois arriver dans l'atelier, elles avaient toutes un tablier de cuisine avec une manique pour servir les plats, mais ahurissant, quoi. J'étais complètement ahurie.
À l'époque, c'était les cocottes minutes, les appareils oui. électroménagers.
Non, mais là, un tablier de cuisine, quoi. C'était super humiliant, moi, je trouvais. Donc, on a fait un tract de l'OCT, qu'ils appelaient la clave. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'on en a mis plein la gueule à la CGT, hein, quand même. Voilà. Donc, ben, nous, on était déjà féministes, hein, quand même, un minimum. Et l'année suivante, alors, il y avait un cadeau unique, le même pour tout le monde. Hein. Et puis, à l'année suivante, alors, symbolique, une potiche. Une grande potiche blanche avec des trucs bleus au-dessus. Ahurissant, quand même. Ils n'avaient pas eu l'idée de faire des cadeaux différents. Moi, je suis contre la fête des mères. Hein, cette fête moripile, quoi. Aujourd'hui, on la reprend. On voit qu'il y a des biocopes qui font la fête des mères. Ahurissant, quoi. Je me dis, mais c'est rentré dans les mœurs alors que c'est un truc. Non, pour moi, c'est une fête machiste, quoi. C'est une fête réactionnaire qui dit à la femme, ouais, bah, tu dois être belle. Bien travailler à la maison, repasser.
Séduisant.
Ah ben oui, parce que maintenant, voilà, c'est ça. Et aussi cultiver, parce que pourquoi pas, tu peux aller au cinéma de temps en temps et lire un livre. Mais c'est le fait de faire un cadeau ce jour-là. Et on utilise les enfants pour reproduire à l'école ce truc-là. À l'école, ben, dans les maternelles, on prépare la fête des mères. C'est ahurissant, quoi, à notre époque, je trouve.
Mais déjà le ciel blanchit. Esprit, je vous remercie de m'avoir si bien reçu. Cochez lugubre et bossu, déposez-moi au manoir et lâchez ce crucifix. Décrochez-moi ces gousses d'ail qui déshonorent mon portail et me cherchez sans retard. L'ami qui soigne et guérit, la folie qui m'accompagne. Jamais ne m'a trahi. Champagne.
J'ai pas fini sur la grève de 80. On est sorti et on dit on va voir la direction. On va voir le directeur de l'usine. Et on est sorti. Traverser la cour, aller, parce que c'était un peu à l'extérieur. Dans le hall, il y a une super. D'ailleurs, c'est dans la BD. Là. Il y a une photo dans le livre et il y a un dessin dans la BD.
Tu fais bien de le préciser, c'est qu'il y a plein de documents.
Oui.
À la fin, très intéressant, tiré de l'époque, des photos, des tas de choses.
Oui. Mais dans le dessin, il y a la grève de la couture. Ouais. Parce que pour moi, c'est un moment quand même important. Ouais. C'est quand même. Assez fondateur. Et puis pour les ouvrières aussi, c'était génial. Bon, elles étaient contentes. C'est incroyable la différence entre 73, où j'étais toute seule, et 87 ans après, où je vois la différence. Ouais, c'est ça, c'est cette photo-là. Là, c'est le directeur qui était venu, qui nous a rejoint dans l'escalier. Moi, j'étais là. Et là, c'est Mémène. Voilà, voilà. Et ça, c'est une autre déléguée CGT. Comment, en ayant préparé une grève, parce que celle de 73, je ne l'avais pas préparée. Moi, j'étais étonnée, en plus de la grève, je n'avais pas capté qu'ils allaient venir à la couture. On en avait parlé, mais là, on l'avait préparé. Et là, de voir les filles qui sortent une à une, qui appellent les autres, allez, viens, on y va, etc., qui se congratulent, on s'applaudissait quand il y en avait qui sortaient des rangs des machines, quoi. C'est fabuleux. Moi, j'en ai des frissons encore quand je parle, parce que c'est quelque chose d'incroyable. Retrouver sa dignité, on se lève face au patron et dire on n'est pas d'accord, ça va pas, vous faire quelque chose. Il y a une communion, en fait, les filles s'embrassaient, c'était souriaient, rigolaient, c'était vraiment super. Parce qu'une bonne partie de l'atelier, pas toutes, hein, évidemment, il y a toujours qui ne font pas grève, mais on est descendu voir le chef du personnel qui nous a dit « Je viendrai vous voir personnellement, on va régler cette question des rendements, etc. Bon. »
Et rapport avec les ateliers de mecs ?
Oui, ça fait du bruit dans l'usine, parce que quand la couture, dans une usine comme ça, quand le seul atelier où il y a le plus de femmes se met en grève, c'est quelque chose quand même. Hein. Ça veut dire que eux, il faudrait peut-être qu'ils s'y mettent aussi, quoi. Ah, voilà, mais il y a eu des grèves, parce qu'il y a eu beaucoup de grèves en 82, des très belles grèves. Dans toutes les usines automobiles, j'en parle, ça a été un mouvement sous Mitterrand, un raz-de-marée dans l'automobile, mais ouais. Ahurissant.
Il y a ce combat, pour toi, qui est quand même très très important, ce combat féministe hein, pour l'égalité, tous les cas des droits entre les hommes et les femmes, et la question aussi du racisme. Parce que bah, quand on travaille dans une usine comme celle de Flins et comme toutes les autres d'ailleurs, et encore aujourd'hui, hein, il y a une très grosse majorité des travailleurs qui sont issus de l'immigration, ou voire sans papier, intérimaire. Du coup, la question, elle se pose. Alliance, unité, comment ça s'est passé?
Alors, ce que je voulais dire, c'est que quand nous, on est rentrés dans l'usine, on n'avait pas capté ça. Pour nous, l'usine, c'était Renault Flins avec des Français. C'était 68. Avec que des Français, il y avait quelques Portugais, quelques Espagnols, mais très très peu d'étrangers. Parce qu'ils travaillaient à la journée. Il n'y avait pas encore les 2-8. Et après 68, le pouvoir d'achat était augmenté. Quand même, il y a eu des résultats à 68. Il y a eu des augmentations de salaire.
Diminution du temps de travail.
Les gens pouvaient consommer plus et consommer des voitures. Donc, il y a eu une explosion de la demande de voitures et il fallait produire plus de voitures. Donc, comment produire avec seulement 10 000 salariés? Eh ben, on va doubler les équipes. Et ils ont installé les 2-8, des équipes qui travaillent une fois le matin, une semaine le matin, une semaine l'après-midi, plus une équipe de normale. Mais sur la fabrication, tout le monde était en 2-8. Moi, quand je suis rentrée, j'étais en 2-8. C'est-à-dire, j'étais une semaine le matin, une semaine le soir. Ça a doublé les effectifs. L'usine, elle est passée très, très vite dans les années 70 à 22 000 personnes. Ça a doublé les effectifs. Mais surtout sur les chaînes, parce que les immigrés, ils ne sont pas dans toute l'usine. Ils ne sont pas techniciens, ils ne sont pas chefs. Ils sont sur les chaînes de montage, sur la fabrication. La majorité, c'était des immigrés, c'était des Marocains. Les Marocains du Sud, qui sont plutôt paysans, qui ne sont pas dans les villes, pas alphabétisés la plupart. Il y avait encore des Algériens, mais surtout des Marocains, Tunisiens. Ils ont rembauché des Portugais, des Espagnols, des Yougoslaves. Il y a eu jusqu'à 50 nationalités à Renault Flins. Mais la majorité, c'était effectivement des Maghrébins. Ils ont appris la lutte parce qu'ils ne la connaissaient pas, la lutte. Quand ils sont arrivés, ils ne connaissaient pas tellement les usines. Voilà. Et leur première grève, ça a été 73, justement. Et en 82, alors là, ça a explosé. Et ils ont demandé des choses pour eux aussi. On avait fait une belle grève, nous aussi, en 75, je crois, 76, pour les Africains qui voulaient aller dans leur pays, mais ils ne pouvaient pas y aller tout, parce que ça coûtait cher, voir leur famille, ils habitaient au fin fond de l'Afrique, ils demandaient des congés sans solde supplémentaires. À la CFDT, on avait dit oui, on va soutenir cette revendication. On avait fait une pétition et tout, on avait dit on va faire grève. La CGT n'avait pas voulu, parce qu'elle trouvait que c'était peut-être trop. Ils n'avaient pas voulu participer. Mais nous, on avait essayé d'élargir pour dire pour avoir du temps, y compris, il y avait des jeunes qui demandaient d'avoir des congés sans solde, des jeunes français, voilà, mais ce n'était pas la majorité. Et c'est surtout les Africains qui sont sortis là-dessus, ils étaient plus motivés que ça pour avoir des congés sans solde. Et ils ont fait une grève, on l'avait bien préparé, ils ont fait une grève même pas une journée, quelques heures. Et la direction l'a cédé tout de suite, j'ai eu peur. Hein.
Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces rapports conflictuels, compliqués ou solidaires qui peut y avoir entre les travailleurs d'origine française pure souche, on va dire, puisque maintenant, il y a quand même pas mal aussi d'émigrés deuxième, troisième génération qui sont français, entre ces populations.
C'est sûr qu'il y avait du racisme parmi les ouvriers et les ouvrières français, hein, ça c'est sûr. Et même entre nationalités, entre Portugais et Africains. C'est, ça, c'est l'histoire de ces pays. La France aussi, on est marqué par l'Algérie, par tout ça. Quand je suis remontée de ma première grève, où j'étais toute seule le lendemain, j'ai pris une douce froide, parce qu'elles m'ont dit « retourne avec tes bougnoules, hein ». Oui, en plus de ça, en 80, mon amoureux qui est toujours mon compagnon, ça fait plus de 40 ans, et ben il est marocain, voilà. Oui, mais c'était un militant révolutionnaire aussi, un marocain révolutionnaire. Non, c'était difficile, mais même les chefs, voilà, il y avait du racisme et il y avait une officine du Maroc qui attisait ça pour dire. Il faut pas faire grève, etc. Il divisait les gens. Et puis, il y avait une officine de la direction. Il y avait un comité de défense de Renault, où c'était des gars qui tapaient sur les grévistes, qui. Et non, mais c'est pas comme à Poissy, hein. C'était pas comme à Talbot. C'est Renault, c'est une usine nationalisée quand même, hein. Donc, mais c'était toléré quand même par la direction. Ils sortaient des tracts, ils sortaient des saloperies dans certains papiers et tout ça. C'était plus sournois. Disons. Mais il y avait beaucoup de gens de la maîtrise qui en faisaient partie quand même. Ouais. Et nous, à la CFDT, puisqu'on notre banderole, c'était quand même, la banderole principale, c'était Français immigrés tous unis. Ça a duré des années et des années. On la sortait tout le temps. Donc c'était vraiment une CFDT, effectivement, à gauche, parce que même dans la CFDT, c'était pas toujours évident. Hein. Et puis dans les syndicats, il y avait beaucoup de maghrébins, parce qu'il fallait qu'ils se défendent. C'était bien. Moi, je trouve qu'il y avait toutes les nationalités. Donc c'était. Je pense qu'il y a eu beaucoup de combats là-dessus et les meilleurs moments qu'il y a eu, c'était effectivement... mais il y a eu beaucoup de défaites parce qu'il y a eu 73, il y a eu 78, une autre grève, des défaites terribles où il y a des licenciements et quasiment tous, c'était des immigrés. Qu'est-ce que ça soulignait ?
Sur la question de la difficulté aussi d'intégrer au sein des organisations politiques et syndicales, puisque là tu mets quand même à la page 47, hein, je l'avais souligné, aucun candidat d'origine étrangère n'est élu sur les listes de la CGT et de la CFDT. C'est un constat aussi.
Ça, c'était en 73 ou 78. Dans les syndicats, il n'y en avait pas quand on arrivait. Nous, quand on est rentré en 73, il n'y a pas beaucoup de. Et on avait mis, je crois que c'est 73, on avait mis des délégués immigrés. Et on les avait mis en tête de liste pour les élections professionnelles. Et après la grève, il y avait eu des élections. Et la CGT avait fait pareil. Et les rayures étaient autorisées. Aujourd'hui, ce n'est plus autorisé. Hein. Les rayures étaient autorisées. Tous les noms étrangers avaient été mis, y compris les Portugais et tout ça. Ah, donc, tous les Français étaient remontés et on n'avait aucun délégué immigré. La CFDT elle-même a fait des actions juridiques, etc., pour dire que c'était pas normal et tout ça. La CGT a suivi, mais ça a duré des années. Ça a duré des années. Bien sûr qu'il y a des ouvriers français racistes. Et
bah oui.
Je suis 3-4% de gens qui rayent et c'est bon, quoi. Ça ne veut pas dire que c'était massif, mais c'était une minorité agissante. Puis maintenant, c'est plus possible. Il y a eu des procédures juridiques importantes pour que ça ne revienne pas. Ce que je voulais dire aussi dans ces grèves qui étaient importantes, moi qui m'a bien aussi choquée, ça se faisait à l'époque, ça se fait moins quand même maintenant, c'est que la direction de Renault, quand la grève était assez forte et qu'on occupait la nuit aux presses et tout ça, elle nous a évacués avec les CRS quand même. Donc on a revu les CRS de 68 dans l'usine en 73 et en 78. Alors, ils n'étaient pas violents, mais ils nous poussaient et on sortait. Mais c'était, moi, voir une cohorte de CRS dans l'atelier des presses, c'est un truc qui me donne des frissons quand je vois les photos, encore maintenant. C'est pas normal. Il y a un truc qui me déchire le cœur quand je vois ça. C'est trop dur, quoi, de voir ça. Des gens qui se battent pour leur salaire, pour leurs conditions de travail, qui sont virés comme des malpropres par des CRS, c'est...
Mamadou m'a dit, Mamadou m'a dit, on a pressé le citron pour jeter la peau. Mamadou m'a dit, Mamadou m'a dit, on a pressé le citron pour jeter la peau. Les citrons c'est les négros, tous les bronzés d'Afrique, Sénégal, Mauritanie, Haute Volta, Togo, Mali, Haute d'Ivoire et Guinée, Bénin, Maroc, Algérie, Cameroun et tout y quanti, Cameroun et tout y quanti. Les colons sont partis avec des flonflons, des discours solennels, des bénédictions. Chaque peuple, c'est normal, dispose de lui-même et doit s'épanouir dans l'harmonie. Une fois qu'on l'a saigné aux quatre veines, on l'a bien ratissé et qu'on lui a tout pris. Mamadou m'a dit, Mamadou m'a dit, on a pressé le citron, on peut jeter la peau. Mamadou m'a dit, Mamadou m'a dit, on a pressé le citron, on peut jeter la peau.
Peut-être que tu l'as dit au début, mais si c'était à refaire, tu referais la même, c'est ce que tu disais.
Oui.
Je retournerais. Qu'est-ce qui t'a paru le plus riche, le plus fort dans cette expérience de femme établie, ouvrière, à Renaud Flin?
Bah, ouais, un peu tout. C'était mon atelier, la couture. Parce que quand je suis partie après au CE, je l'ai dit aux filles, j'aurais dit, j'ai peur de vous trahir, et puis vous savez, j'ai mon bac, on n'a rien à foutre. Voilà. Vous avez mon bac, bah ouais, bah c'était courant, quoi. Ils m'ont dit, bah, on te reverra au CE, et je les ai revus au CE, tout ça. Je suis restée aussi dans cette usine, parce que j'ai quand même rencontré Jama, en 80. Si je n'avais pas rencontré Jama, je ne serais peut-être pas restée, tu vois. On était deux, mais il y en avait d'autres. Oui, des révolutionnaires, il n'y en avait plus beaucoup à l'époque. Après, il n'y en avait plus beaucoup. Il y avait Jacques qui était encore là, mais c'était plus pareil l'ambiance. Et puis, mon travail au CE m'a aussi bien enrichi, je trouve, parce que la CFDT a fait des trucs vraiment chouettes au niveau culturel. Parce que j'ai passé un diplôme. Là, pour le coup, j'ai eu un diplôme important. J'ai devenu bibliothécaire et discothécaire. J'ai deux CFB. Et puis après, je suis devenue animatrice culturelle. Ça m'a beaucoup enrichi d'apporter la culture aux salariés. Et par contre, j'ai souffert beaucoup plus du patronat. Enfin, oui, parce qu'il y a une direction patronale quand même dans les CE. Il y a un directeur, même si c'est un syndicaliste, parce que j'ai subi du harcèlement moral au CE. Ils ont voulu se débarrasser de moi dans les années 2000. Et ça a été très, très dur. Dans les années 78, 79, 2000, ouais.
Là, tu nous racontes les moments les plus forts, les plus combatifs, mais t'es passé aussi à des moments de ta vie dans des périodes de dépression, hein, aussi liées à ton travail.
Bah pour moi, c'était dur parce que j'ai subi du harcèlement moral et antisyndical. On a fait un procès qu'on a gagné à moitié en prud'homme, mais ils ont voulu me licencier quand même. Finalement, la direction a dit non, pas licenciement, une déléguée CFDT, OCE, ça fout mal et tout ça. Ils m'ont mis deux jours de mise à pied. Mais on a fait quand même un prud'homme pour contester ces jours de mise à pied. On l'a obtenu, ça a duré un bout de temps. Et j'ai récupéré mes deux jours de mise à pied et 1 euro de dommages et intérêts. Maintenant, je sais, parce qu'on en parle beaucoup maintenant, mais à l'époque, on n'en parlait pas beaucoup, ce que c'est le harcèlement moral. Alors, à l'entreprise, c'est terrible. C'est une méthode de management pour faire craquer les gens, y compris les gens qui sont politisés comme moi, qui sont... Mais on a toujours une faille, de toute façon. Ils avaient trouvé ma faille, donc les harceleurs, ils ont toujours une faille. Ils voient les failles. J'étais très, très sensible, justement, à ça.
Pour vous dire que ce qui vous attend, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Et pas le capital, protéger le climat. Et pas le capital, protéger le climat. Et pas le capital, protéger le climat. Et pas le capital.
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, vous écoutez les Régors chaque semaine sur les Coligarigues à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et bien évidemment Radio Primitive sur 1 sur cette émission réalisée. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le blog Le Chat Noir 51 et sur le site oclibertaire.l'autre.net.